I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de deux professionnels pour cet épisode, une discussion sur une thématique un petit peu différente, très clinique, et je suis ravie de vous partager cet échange entre Nunzio Danibal et Isabelle Malville. Tous les deux sont psychologues. Ils vont se présenter dans l'épisode, mais avant ça, je tenais à les remercier pour leur apport clinique, leur apport du terrain. Je pense que vous le sentirez, du moins vous l'entendrez, autant que j'ai pu l'entendre dans cet échange. Ils ont une réelle expérience, une réflexion qu'ils se sont constituée au gré de leurs rencontres, de leurs pratiques auprès des enfants, des équipes, des familles. Parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode sur la protection de l'enfance. C'est un sujet qui nous concerne tous, malgré ce qu'on pense. Parce que la façon dont on pense la protection de l'enfance, dont on accompagne les plus fragiles, a un impact direct sur la prise en charge des adultes, que ce soit en psychiatrie, mais également de tout individu, tout venant de la société en général. Donc c'est un partage très précieux aujourd'hui, et je vous laisse aller rejoindre la discussion. Bonne écoute! Du coup, bon ben, tu m'as contacté il y a quelques mois pour me parler un petit peu de ton lieu d'écoute, de soins. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, que vous avez créé tous les deux donc avec Isabelle. Et on a échangé un petit peu par mail, notamment autour de justement est-ce qu'on pourrait faire un épisode ensemble. On avait plusieurs thématiques en tête et puis on s'est rejoint plutôt sur la protection de l'enfance parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui. Et ça me parle beaucoup justement cette idée de la protection de l'enfance parce que je trouve que c'est une thématique où tout le monde a un peu son idée dessus, en tout cas dans la population générale, tout venant, et qui souffre en même temps de ces idées à deux têtes, en même temps la protection de l'enfance peut-être comme quelque chose qui serait assez intrusif, peut-être presque dans la persécution, dans les familles, de comment on vient... intervenir voilà, dans les familles. Et puis à l'inverse, moi j'entends souvent aussi protection de l'enfance un peu comme un héros déçu justement qui pourrait pas assez intervenir, qui serait très limité et du coup qui aiderait pas tant que ça les enfants.
Ça serait du côté professionnel,
j'entends souvent de quelque chose justement d'assez inhibé par rapport aux professionnels. Donc voilà, j'avais envie qu'on aborde un petit peu ce sujet de façon déjà assez large, peut-être du côté assez théorique, assez peut-être aussi en pratique, de qu'est-ce qui se passe dans ces cliniques-là. Déjà, pourquoi on parle de maltraitance? Est-ce qu'on se parle d'adultes maltraitants? Est-ce qu'on parle d'enfants en danger? Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants? Qu'est-ce qui se passe pour ces adultes? Et puis peut-être après aussi dans quelque chose de plus ciblé sur une forme d'état des lieux de la protection de l'enfance aujourd'hui, comment on repère, comment on travaille, etc. Donc je vous laisse peut-être tous les deux vous présenter rapidement avant, parce que justement là on est trois, donc c'est au moins tout le monde va pouvoir identifier les voix petit à petit. Donc Isabelle, je te laisse commencer.
Donc je suis Isabelle Malville, je suis psychologue clinicienne, donc j'ai créé avec Nunzio et une troisième personne, la troisième rive, il y a de ça maintenant 4 ans. Et j'y travaille maintenant quasi exclusivement puisque j'ai une pratique en crèche par ailleurs. Mais j'ai donc ça depuis le début de l'année 2021. Mais auparavant, pendant 15 ans, j'ai travaillé en tant que psychologue à l'aide sociale à l'enfance. Et dans mon parcours au sein de l'ASE, j'ai à peu près fait tout ce qui pouvait se faire en tant que psychologue. C'est-à-dire que j'ai fait des établissements d'accueil, j'ai fait aussi de l'accompagnement d'équipes éducatives en tant que psychologue enfance. J'ai travaillé aussi très longtemps dans un placement familial où j'ai accompagné des enfants, leur famille d'accueil et travaillé avec leur famille. Voilà. Donc c'est vrai que la protection de l'enfance, c'est un domaine que je connais particulièrement bien. Voilà.
Ok, c'est à moi.
Ouais,
c'est à toi. Nunzio d'Hannibal, donc. Moi, je suis psychologue clinicien aussi. J'ai travaillé d'abord principalement en psychiatrie adulte, où j'ai croisé beaucoup d'adultes, que ce soit schizophrènes, paranoïaques, ou avec d'autres maladies psychiatriques qui étaient passées par la protection d'enfance. Pour le coup, il suffit d'ouvrir les dossiers pour s'apercevoir qu'il y en a énormément en psychiatrie qui sont passés par là, par l'ASE, anciennement la DAS. Et après, en effet, on a créé la troisième rive avec Isabelle et une autre psychologue. Mais aussi, c'est peut-être intéressant de dire que j'ai dirigé un service de visite en présence d'un tiers pendant un an et demi. J'en suis parti. Mais voilà, c'est quand même intéressant de savoir ça aussi. On pourra peut-être évoquer ces histoires de visite en présence d'un tiers, qui sont très importantes, parce qu'elles sont, elles sont ordonnées par le juge des enfants, donc c'est vraiment protection de l'enfance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que quand même, quand on a créé la Troisième Rive, qui est une association qui s'occupe de la prévention précoce autour du soin psychique, on avait cette idée justement d'avoir un positionnement sur la protection de l'enfance avec le moins de confusion possible. Alors on essaiera de peut-être tout à l'heure de préciser ce que ça veut dire et le moins de culpabilité possible. Parce que on évoquera aussi, j'imagine, cette question, c'est-à-dire que ce soit pour les professionnels ou les familles, comment il règne une sorte de confusion dès qu'il est question de séparer les enfants de leurs parents, alors que on verra que dans la concrétude des choses, c'est beaucoup moins confus qu'il n'y paraît. Mais voilà, ça on y reviendra, mais je pense que ça bon, suffit.
On peut commencer comme voilà. Ça aussi, oui, justement cette idée de alors, la séparation. Parce que je pense que c'est directement quand on pense absolument. Protection de l'enfant, il y a la question de la séparation, et en plus c'est voilà. Énormément discuté.
Alors c'est vraiment une question qui charrie de nombreux fantasmes, de toutes parts, de toute nature, et des projections qui sont... ça mobilise tout de suite quelque chose de très, très émotionnel. On n'est plus du tout dans quelque chose où les gens prennent du recul. Et très vite, on voit qu'on parle d'autre chose, en fait, que de la situation dont on est en train de parler. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté à longueur de temps dans les synthèses et que tout le monde y va de « mais moi, je connais quelqu'un » ou « on va pas lui faire ça ». Et puis, ce qu'on a l'habitude de se dire, nous, souvent, c'est que y a cette espèce d'axiome « c'est quand même sa mère, c'est quand même son père » qui revient continuellement. C'est-à-dire que c'est ce signifiant maternelle, dans lequel tout le monde est pris, parce que c'est du langage dans lequel on est tous pris, puisqu'on est tous nés de quelqu'un, et qui vient recouvrir comme ça les possibilités de réflexion, et qui coupe vraiment quelque chose d'une prise de recul. Et c'est vrai que nous, on a un parti pris. Moi je le présente comme ça maintenant parce que je me suis aperçue à quel point ça se heurtait à des convictions profondes chez beaucoup de gens qui est que la séparation c'est pas là que se situe la catastrophe elle a eu lieu avant, c'est antérieurement que les choses se sont jouées, c'est pas quand on sépare. La séparation ça n'est que l'aboutissement de quelque chose qui est un processus qui s'est mis en place bien avant la naissance, puisque c'est comment l'enfant a été porté, qu'est-ce qu'il représente dans l'économie psychique de ses parents, c'est ça qui compte, c'est ça qui se joue. C'est pas au moment où où les services sociaux arrivent et où le juge décide de la séparation. C'est bizarre d'un rang. Et voilà. Donc ça, c'est le parti pris, c'est celui-là. C'est de dire que la séparation, c'est pas ça qui est catastrophique. Ce qui est catastrophique, c'est ce qui a lieu avant.
Ça, c'est une des premières confusions par rapport à la protection d'enfance. Et c'est très drôle parce qu'on la retrouve en psychiatrie dans l'hospitalisation. Il y a un parallèle qui est assez évident. Souvent, que ce soit du côté des soignants, pas tous, hein, mais beaucoup de soignants rejoignent les patients sur une chose, le traumatisme, c'est l'hospitalisation. C'est le moment de l'hospitalisation. C'est pas la catastrophe psychique de la schizophrénie, avant toute intervention. Non, c'est l'hospitalisation qui est le problème. Ce qu'on retrouve dans le délire, même de certains patients. Et c'est pareil en protection de l'enfance, si on écoute certains professionnels et certaines familles, le problème ce n'est pas ce que vivent les enfants au sein de leur famille, c'est qu'on les sépare de leur famille. Mmh. Mais là, il y a une première confusion qu'on retrouve, qu'on ne devrait pas retrouver chez les professionnels, qu'on les retrouve chez les familles, c'est normal qu'ils soient pris dans le discours familial, dans la loi familiale, en tant que faisant partie d'une famille, pourquoi pas. Mais qu'on retrouve ça chez les professionnels, c'est là que ça devient compliqué. Et combien de fois dans les synthèses, dans les réunions, dans les discours des professionnels, et chez les psychologues aussi, hein, évidemment, aussi. Et les pédopsychiatres n'en parlons pas, on va retrouver tout d'un coup face à une discussion rationnelle sur ce que vit un enfant dans une famille, tout d'un coup des arguments d'autorité dont tu parlais, qui sont de type, c'est pire que de les enlever de leur famille, que de les laisser dans une famille maltraitante. Pourquoi ? Parce que c'est quand même leurs parents. Comme si les enfants appartenaient à leurs parents, alors qu'ils appartiennent à la loi, les enfants. Et c'est une co-appartenance entre la loi, les institutions, l'institution familiale, puisque c'est une institution déconnante comme les autres. Et là, il y a une confusion dans le discours des professionnels. Alors, après, il ne faut pas s'étonner que c'est une confusion chez les parents, chez les enfants eux-mêmes. Oui. Voilà, ça c'est très important de noter cette première confusion qui est sur le traumatisme, c'est pas ce que vit l'enfant dans la famille, c'est la séparation. Ce qui est une aberration, évidemment, je pense que tout le monde rationnellement arrivera à se le dire assez facilement.
Moi je préciserais d'ailleurs à ce sujet-là que c'est ce signifiant mère ou père suscite immédiatement des représentations de maternage ou de paternage, quand elles sont là. Sauf que justement, c'est ça qui déconne. C'est ça qui ne fonctionne pas dans les familles où il y a des interventions de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on renvoie l'enfant systématiquement à cette appartenance. C'est ta famille, c'est ton père, c'est ta mère. Ça, c'est continuel. On ne fait que ça, lui dire... Tu dois aller en visite médiatisée voir ton père, tu dois aller en visite médiatisée, même si c'est un truc complètement qui terrorise tout le monde et qui met tout le monde dans un état absolument dingue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les enfants qui ont des symptômes hein, autour des visites médiatisées. Faut voir un peu ce que. Même pour le parent, c'est quelque chose de compliqué. Enfin,
et les professionnels
et bien sûr que les professionnels.
Moi, dans le service que je dirigeais, plein de fois, certains professionnels avaient des sortes d'angoisse qui précédaient les visites médiatiques parce que cette rencontre était folle, en fait. Mmh. Et du coup, ils savaient qu'ils allaient devoir gérer quelque chose de fou. Et en plus, qu'ils ne pouvaient pas faire, parce qu'ils n'ont pas de moyens de coercition pour dire à un parent 26 fois de ne pas faire ça pendant la visite. On ne prend pas de photos des bleus qui n'existent pas, on ne regarde pas les dents, on ne regarde pas les... Hein, on critique pas la famille d'accueil en permanence. Et ils étaient certains très angoissés à l'idée de faire ces visites médiatisées parce qu'il allait falloir reprendre sans arrêt les parents. Donc ça m'évoque vraiment ces situations-là qui étaient... Voilà. En effet, il n'y a pas que les parents aussi, hein, ça les angoisse, hein, ces visites. Hein.
Bien sûr.
Il y en a plein qui ne viennent pas.
Voilà.
De toute façon, parce que c'est trop. Et les professionnels et...
Et c'est pas... Parce que souvent, ce qui est discuté autour des visites médiatisées, c'est le fait qu'il y ait le regard d'un professionnel qui vienne comme ça, en surplomb, regarder ce qui se passe et intervenir, et que forcément, ça manque de naturel. je mets ça un peu entre guillemets. Mais finalement, c'est faux. Parce que on voit bien que le naturel, justement, d'ouvrir la bouche de l'enfant avant de lui dire bonjour pour regarder ses dents, c'est quelque chose qui existe et qui ne vient pas, qui n'est pas suspendu par le regard de l'autre. Et c'est bien ça qui fait pas loi, justement. Enfin, ou une nouvelle loi, enfin quelque chose d'une reconstruction comme ça qui est complètement fou, quoi.
Oui, parce que la plupart du temps, on se rend compte que les professionnels ne maîtrisent pas le cadre de la visite médiatique.
C'est ça.
C'est le parent fou, la plupart du temps, psychotique. Franchement, c'était 90% des parents qu'on recevait qui étaient très malades, hein, en grande, grande souffrance. C'est lui qui dirigeait la visite par sa folie. Parce que la folie, c'est au-dessus du petit névrosé psychologue. On ne sait pas s'il est névrosé, mais en tout cas, qu'il a avec son petit cadre de psychologue et qui va dire non, faut pas faire ça. Non, la folie, elle va au-dessus de ça. Donc, la plupart du temps, on se retrouve avec des visites médiatisées où c'est la folie du parent qui dirige la visite. La plupart du temps, il fallait arrêter ces visites.
C'est-à-dire que à chaque fois se pose la question, parce que voilà, tout le monde prend la parole au nom. Dans les synthèses, dans les réunions, au nom de l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est vraiment le bouclier qui permet d'avancer des arguments dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, dans l'intérêt de l'enfant, on dit que c'est très important de maintenir les liens. Mais je pense que là, il y a une confusion aussi. C'est-à-dire que les liens, ils sont là. L'enfant, il sait très bien d'où il vient. Il sait très bien que sa famille d'origine, c'est celle-là. Quand il appelle son assistante maternelle, familiale, pardon, son assistante familiale maman, il sait très bien que c'est pas sa mère. Mais c'est elle qui remplit cette fonction-là, n'empêche. Et que c'est ça qui fonctionne. Et que c'est parce qu'elle est à cette place-là que quelque chose peut se guérir. C'est-à-dire que moi, après 15 ans de protection de l'enfance, vraiment le constat, si j'ai une chose à transmettre, et un constat que j'ai pu faire, c'est que ce qui fonctionne pour les enfants, qui leur évite justement d'être pris dans cette folie langagière, de l'appartenance à une référence familiale complètement déconnante, et de stopper, parce que je crois que c'est ça notre boulot en tant que soignant dans le cadre de la protection de l'enfance. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me le représente, et je pense que c'est partagé par un grand nombre, c'est de permettre à ce qu'il n'y ait pas plus de répétition. Tenter quelque chose qui viendrait arrêter la spirale de la répétition folle. Voilà. Eh bien, si on veut faire ça, parce que moi, je crois qu'il fonctionne, la seule chose qui fonctionne, c'est que tout d'un coup, on lui propose un autre référent que le référent d'origine, un autre référent qui soit complètement épris de cet enfant. C'est pour ça que la professionnalisation, c'est une vraie question. Mais qui soit totalement épris de cet enfant de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que l'enfant, il cherche ça, il a besoin de ça. On voit bien que c'est les seuls...
Oui, je ne suis pas d'accord.
Oui, il n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, c'est mon constat, en tout cas.
Là, je suis d'accord. Pas complètement d'accord. Parce qu'il ne doit pas être complètement épris.
Oui, mais en gros, en tout cas, qu'il y ait une rencontre comme ça.
Ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est qu'il y a une distance.
Oui, mais la distance...
Contrairement aux parents fous.
Oui, mais c'est peut-être parce c'est une question de définition. C'est-à-dire que je crois que quand même qu'il faut cet ancrage premier où cette rencontre s'exerce, enfin, a lieu. Moi, les enfants qui vont bien, parce que j'en ai suivi quand même, c'est ça qui est intéressant au placement familial, c'est d'avoir ce suivi longitudinal. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend dans la petite enfance en se disant « Oh, il y aura bien quelqu'un qui va rattraper le truc derrière, en gros, on va le soigner ». Au lieu de faire de la prévention, et ça c'est l'autre gros volet sur lequel on pourra dire deux, trois mots, c'est-à-dire que se dire, il y aura toujours un moyen de mettre des suivis en place, etc., pour travailler ces questions, au lieu de les prévenir. N'empêche que moi je pense qu'il faut intervenir tôt, et intervenir avec cette possibilité-là, que l'enfant puisse s'ancrer suffisamment quelque part pour pouvoir mieux s'en détacher et construire sa propre vie. Moi, je crois que une intervention efficace serait celle qui aurait pour objectif, et pourtant tout le monde s'accorde à dire ça, hein, mais les moyens ne sont pas tout à fait... les moyens qu'on imagine ne sont pas les mêmes, Mais une intervention efficace, ce serait celle qui aurait pour objectif de rendre suffisamment autonome l'enfant qu'on prend en charge pour qu'il soit un citoyen qui fonctionne suffisamment bien dans la société, qui puisse subvenir de lui-même à ses besoins, travailler, aimer, faire sa vie d'adulte et construire sa propre famille. Voilà, ça, idéalement, c'est ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur ces objectifs-là, enfin, il me semble. Mm-hmm. Mais pourtant, les moyens mis en œuvre pour y parvenir, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses dont on ne se remet pas. Voilà, des choses dont on ne se remet pas. Et ça, je crois que ce n'est pas du tout inscrit, ni dans la loi, ni dans la tête de ceux qui prennent des décisions. Je te laisse nuancer ce que je veux
dire. Ah, tout à l'heure, pourquoi je ne suis pas d'accord ? C'est parce que l'assistante familiale. Là, on parle des cas où les enfants sont placés dans des familles d'accueil. On ne parle pas des foyers.
Oui.
C'est encore autre chose, c'est compliqué. Mais si on parle des enfants qui sont placés dans les familles d'accueil, je pense que si l'assistante familiale est totalement épris, pour reprendre tes termes, de cet enfant, on se retrouve dans quelque chose d'un peu foufou.
Oui.
L'idée, c'est pour ça que c'est pas si mal qu'elle soit professionnelle, qu'il y ait une distance. L'important, c'est que l'enfant soit plutôt rabattu sur la famille d'accueil que sur ses parents. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est tout le contraire, parce que notre civilisation est faite comme ça aussi. Hein. L'enfant est systématiquement rabattu à sa famille, sur sa famille, pardon. Et comme s'il devait, comme si on lui demandait de s'identifier là et pas dans la famille d'accueil.
C'est ça.
Et il y a un gros problème chez les professionnels la plupart du temps là-dessus. Alors que si tout le monde valorisait, et les parents, si les parents qui ont été séparés de leurs enfants le faisaient aussi, et ça existe. Moi, j'ai déjà vu des parents qui valorisaient cette famille d'accueil,
bien
malgré
sûr.
Leur folie, qui vraiment dirigeaient l'enfant là-bas, hein, dans l'identification, en disant, c'est pas à moi que tu dois t'identifier, moi je suis un voyou, moi je vis dans la rue, moi je fais ma vie, c'est comme ça. Bon, moi, j'ai déjà vu des parents comme ça, quand même, hein, qui disaient, c'est la famille d'accueil qui compte. Et ça, c'est quand même, c'est un miracle. Hein. Mais si tous les professionnels, déjà, vraiment s'identifient à la famille d'accueil, si je puis dire, ou renvoyer l'enfant plutôt vers là que vers le signifiant familial pur sanguinaire, quoi, hein, au sens sanguin, au sens des gènes, déjà, je pense que les enfants auraient moins de mal à investir les familles d'accueil, ou même les foyers, peut-être, j'en sais rien. Et ça, c'est vrai qu'on retrouve aussi cette confusion là-dessus. C'est-à-dire que les professionnels ont du mal à valoriser cette histoire de la famille d'accueil, comme si déjà c'était coupable. On sent chez eux une culpabilité à demander à l'enfant d'investir quelqu'un d'autre que leurs parents. Et là, on est sur un vrai problème, parce que tout l'intérêt de la séparation thérapeutique, il y a le livre de Berger là-dessus, hein, les séparations thérapeutiques qu'il faut, ou Bonneville, Berger, qu'on peut lire là-dessus. C'est tout l'intérêt, c'est que l'identification change. Pour éviter que je les retrouve moi en psychiatrie après, hein, Esquirol, anciennement Esquirol. Voilà, qu'ils arrivent à s'identifier à quelqu'un d'autre sans oublier leur histoire, mais leur histoire est souvent trouée de toute façon. C'est pas des histoires non plus, la plupart du temps, où ils sont rationnellement, ils connaissent à peu près leurs origines. C'est souvent quand même des histoires très trouées, hein, qu'ils ont. Mais bon, peu importe, on va pas partir là-dessus. Mais en tout cas, c'est important de rappeler cette deuxième confusion qu'on retrouve chez les professionnels. Comment les professionnels, on peut les former, les inviter à valoriser une identification qui ne serait pas familiale. Ce que j'appelle le rapport au maternel, c'est-à-dire que c'est vraiment chez les professionnels, c'est immense, c'est extrêmement répandu, c'est-à-dire que d'abord, les enfants sont rabattus sur leur mère, pour tout dire, beaucoup plus que sur leur père. Hein. Ça, c'est une première chose, c'est toujours vrai, hein, on est dans cette situation, elle n'a pas changé, on est dans une situation materno-centrée, même si ça change, hein, c'est en train de changer. Et ça, c'est à dire, quand on dit qu'ils sont rabattus sur le familial, en fait, souvent, c'est sur la mère qu'ils sont rabattus, qui est intouchable. C'est vraiment, on sent que c'est encore un objet intouchable. Hein.
Pour abonder dans ce que tu dis, juste un aparté, les mères sont beaucoup moins condamnées que les pères. Des mères qui ont laissé leur compagnon maltraiter leur enfant sont rarement condamnées. Elles ont rarement des peines vraiment accomplies. C'est souvent du sursis ou bien même elle passe en jugement, mais il y a un non-lieu.
Et d'ailleurs, c'est non-application des peines par rapport aux maltraitances commises par les parents sont parfois argumentées, on l'a déjà vu plusieurs fois, par le fait que s'ils vont en prison, ils ne pourront pas avoir leurs enfants. Ce qui est, je trouve, un argument délirant. L'enfant a besoin de savoir que son parent, ce qu'il a fait, mérite la prison. Moi, je trouve, symboliquement, pour que la loi s'inscrive, que ça soit dans l'enfant ou dans le parent, parce que c'est, ou alors on abandonne, si ça peut plus s'inscrire, on n'a pas besoin de prison. Mais voilà, il y a aussi ça, c'était assez choquant de ces arguments de juge, hein. C'est-à-dire que je n'applique pas cette peine, je ne condamne pas, car sinon ils n'auront pas accès à leurs enfants. Parce que dans la loi, en même temps. Celle de 2007 et 2016, parfois c'est pas très clair. Est-ce que c'est l'intérêt des familles ou l'intérêt de l'enfant ?
C'est toute la question. C'est-à-dire que il y a deux choses qui sont déjà dans la loi de 2016, malgré son recentrage sur les besoins fondamentaux de l'enfant, dans les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas mentionnés la santé psychique. Ça n'est pas mentionné. Son développement psychique ne fait pas partie de ses besoins fondamentaux. On parle de son développement intellectuel, de son développement physique, de son développement affectif, de son développement social, mais on ne parle pas de son développement psychique. Ça ne fait pas partie des actions sur lesquelles on est censé intervenir en termes de besoins fondamentaux de l'enfant. Donc déjà, ça pose question. Pour moi, ça pose question. Pourquoi cette omission alors que en effet, peut-être qu'en effet, c'est pas une priorité pour la société. Ça s'interroge. Hein. Pourquoi puisque derrière, il y a des hôpitaux psychiatriques qui pourront accompagner les enfants qui, devenus adultes.
Bientôt, ils pourront plus.
Non, pourront plus.
Et pour aller dans ton sens aussi, une petite anecdote qui, moi, pour moi, est pleine de sens. La brigade des mineurs de Paris. D'accord. Je crois qu'il faut vérifier, je n'ai pas les dates exactes, 2019 je pense, a été renommée en 2019 Brigade de protection des familles. Moi, me paraît là absolument hallucinant. Je veux dire, c'est les familles, elles n'ont pas besoin de se protéger, c'est des adultes. Il y a les adultes d'un côté, ils vont porter plainte, ils se protègent eux-mêmes. S'il y a une brigade des mineurs, c'est précisément parce qu'ils doivent se protéger de leur famille. Donc tout à coup, on se retrouve avec une brigade des familles, une brigade de protection des familles, ce qui pour moi est très étrange comme concept. C'est comme s'il y avait une brigade des majeurs, de protection des majeurs, alors qu'ils doivent se protéger eux-mêmes avec la loi, et qui doit les protéger évidemment. Ben. Mais là, on sent cette confusion aussi, ou du retour du signifiant familial, peut-être retour, on a toujours été là, mais qui en force... J'aime bien cette petite anecdote.
Oui, c'est vrai que ça fait partie de tout un tas de représentations, comme je le disais au départ, qui sont là, qui sont qui ont forgé le dispositif de protection de l'enfance, qui en fonction des individus et de leur histoire, finalement, l'enfant ne va pas avoir les mêmes réponses. C'est-à-dire qu'on ne va pas se centrer sur ses besoins à lui en tant que sujet, mais on va se centrer sur des représentations de ce que doit être son parcours en termes de essayer de le faire revenir dans une norme familiale. Puisque l'autre truc qui revient sans cesse, et c'est devenu presque une blague dans les équipes qui font de l'accompagnement d'enfants, c'est que les audiences servent à dire « Bon, la situation là, faut qu'elle avance. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle avance ? En gros, pourquoi le parent n'est pas réparé ? pourquoi le parent n'est pas devenu un bon parent tout d'un coup, pourquoi faites la démonstration, et c'est ce qu'on nous demande systématiquement, faites la démonstration que vous avez mis en œuvre le maximum de choses pour que la parentalité du parent puisse se déployer de la meilleure manière possible. Donc, pour ça, on va rajouter du temps.
Afin de réintégrer l'enfant.
Afin de réintégrer c'est l'enfant. Ça, l'objectif, c'est le retour
de
l'enfant.
C'est ça.
Le faut que ça avance, c'est le retour de l'enfant. Peu importe si ça c'est pertinent ou pas. Il y a plein de situations où c'est pertinent. Mais il y a aussi plein de situations où on sait que le placement de l'enfant nourrisson sera jusqu'à ses 18 ou 21 ans.
On le sait. Dès le début,
ouais. On le sait dès le départ parce que les évaluations, elles ont été faites. Et le problème aussi de dispositif de l'enfant, de protection de l'enfance, à mon sens à l'heure actuelle, c'est cette obsession de l'évaluation. Il faut réévaluer la situation. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui sont réunis, qui ont pu faire la démonstration que là où on était l'histoire de la famille, là où on était le parent dans ses représentations et dans sa structure psychique et dans sa possibilité de prendre en considération son enfant comme sujet ayant ses besoins propres, c'était une impasse quoi, et que même avec un étayage très renforcé, même avec tout ce qu'on aurait pu, on a tenté de mettre en place, ça n'a pas fait bouger ça parce que c'est trop nécrosé quoi, c'est fini quoi, et ben ça c'est pas audible, c'est-à-dire qu'il faut réévaluer, il faut refaire la démonstration que rien n'est possible, alors que oui peut-être que quelque chose est possible, mais peut-être que c'est aux parents d'en faire la démonstration et plus aux professionnels d'aller courir comme ça. Moi j'ai vu tellement de référents à eux, éducateurs, aller chercher les parents presque dans leur lit pour les emmener en visite, parce qu'il fallait absolument faire les visites, parce que c'était vital, on ne sait pas pour qui, vraiment.
C'est pour le professionnel que c'est vital de réunir l'enfant.
C'est ça.
Désolé de dire ça, mais ce que tu racontes me rappelle tout simplement la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on va chercher les gens dans leur lit pour essayer de les animer, mais on n'anime pas un parent avec son enfant, il me semble. Et ça, troisième confusion, l'enfant est là pour animer son parent.
Alors ça, c'est le grand truc de la psychiatrie. Et combien de fois, moi, je me suis engueulée avec la psychiatrie.
Faut qu'il voit son parent, il va mieux quand il voit son enfant. Donc, je fais des arguments de ce type-là qui viennent de la psychiatrie, cette fois. Hein? C'est très important, cette visite, parce que pour que le parent aille mieux. Ça aussi, c'est quand même...
Ou comme récompense aussi. Comme récompense aux efforts qu'il fait pour aller mieux, pour observer son traitement, pour aller vers l'extérieur, ça va soutenir tout ça, ce mouvement. C'est très important que madame rencontre ses enfants. Alors là, pour moi, c'est inaudible, ça. Quand on se situe du côté d'un enfant en construction, et dans ses, de quoi il a besoin, quel sens ça prend pour lui, ça n'en prend aucun.
C'est vraiment Berger qui raconte très bien... avec son expérience de 30 ans de visite médiatisée, comment les enfants sont touchés par ces visites d'une manière qui précède et qui succède à la visite, et qui, lui, il parle carrément d'hallucination.
Oui, il parle d'hallucination, c'est-à-dire que l'enfant revit la situation.
Pour lui, chaque visite médiatisée fait revivre à l'enfant quasiment systématiquement ce qu'il a vécu. C'est un peu excessif, mais moi je l'ai vu en direct.
Oui, moi aussi.
Quand même, des enfants tétanisés par leurs parents.
Oui.
Sans aucune raison, même si le parent ce jour-là.
Il va pas trop mal.
C'est pour ça que Berger va jusqu'à dire à certains moments, même une visite médiatisée qui s'est bien passée est hallucinatoire pour l'enfant. Ce qui a un parti pris complètement excessif, mais intéressant, parce que je l'ai quand même pu constater aussi qu'il y a des enfants tétanisés par la simple présence, qu'on connaît dans le traumatisme. Il n'y a pas besoin, des fois, un mot insignifiant, une image, une odeur, dans la fait réminiscence. Tout le monde connaît ça, même à petit niveau. Les petits traumas qu'on a et qui peuvent revenir comme ça. On imagine ce que c'est que d'un parent qui est là en présence... Et c'est pour ça qu'il n'a pas tout à fait tort de parler de ça, mais ça c'est balayé par la psychiatrie, qui comprend rien à ça. ce qu'on travaille souvent en réseau, c'est-à-dire il y a souvent la psychiatrie qui traite le parent, ça c'est quand même une fois sur
très régulièrement.
Oui, trois fois sur cinq, on va dire. Et d'un côté, la psychiatrie qui traite l'enfant aussi, avec le lien avec les CMPP, c'est pas toujours simple, mais c'est bien qu'il y ait un lieu comme ça, en même temps, qui soit dégagé de toutes ces conneries. Et la protection de l'enfance et le PF. Des fois, il y a les quatre. Il y a la psychiatrie adulte, le CMPP, le PF et le référent ASE. Il faut qu'ils se parlent, tous ces gens-là. Et ils n'ont pas toujours envie de se parler. Surtout la psychiatrie qui est parfois très... dans un secret médical très... on va dire qu'il sent la naphtaline, quoi. Qui est très ancien, qui n'a plus du tout cours, et heureusement, parce que...
Et qui est légal, en point de vue de la question de l'enfance. Puisque dès qu'on parle d'un enfant qui est pris dans une mesure de l'aide sociale à l'enfance, le secret médical et le secret est partagé, voilà. Automatiquement. Il est levé, on est censé pouvoir se communiquer les informations. Et ça,
partagé, en tout cas.
Partagé.
Voilà. Discrètement.
Oui.
Mais on n'a pas besoin des détails, non, on de la besoin consultation. Des... c'est pas la question. Mais ça, c'est... Et là, c'est une autre difficulté, ouais, qui se rencontre aussi. Comment dialoguer à quatre, comme ça, en protection de l'enfance? Souvent, c'est impossible. Quand j'étais à la visite médiatisée, on envoie un mail le lundi à telle sauvegarde de la protection de l'enfance, je sais pas, des Hauts-de-Seine, où c'est vraiment c'est le désert, hein, malgré le département que c'est. Il n'y a aucun moyen à la protection de l'enfance. Hein. Le vendredi, c'est un autre intervenant. Le mail n'existe plus, on ne le savait pas. Donc on envoie pendant une semaine un mail à une adresse qui n'existe plus sans le savoir. L'autre, il est parti, il n'est pas revenu, il n'est joignable que le mercredi. C'est incroyable. Plus le juge, j'oublie. Plus la justice, j'avais oublié ce cinquième interlocuteur. Comment on fait pour parler avec un référent ASE, un placement familial, un juge des enfants, et le référent ASE, que j'ai oublié.
Et la psychiatrie.
Et les visites présentes d'un tiers, la psychiatrie, c'est un bordel.
Et puis, sachant que chacune de ces institutions est en souffrance.
Voilà.
C'est pas comme si, en plus, tout le monde était dans des dispositions très... très détendu.
À la rigueur, les PF et les visites en présence d'un tiers sont peut-être un peu moins en souffrance, en termes de personnel, en termes de... Mais la justice, donc on puisse dire, la ZE, tout le monde le sait, je veux dire, c'est pas un secret de... C'est médiatisé même. La justice est en souffrance, les délais... On va pas parler des délais, mais on pourrait dire par exemple que dans le 94... pour mettre en place une AEMO, une aide éducative en milieu ouvert, parfois il faut 2 ans. Donc le juge prend une décision. Donc s'il prend une décision AEMO, c'est-à-dire que c'est grave, hein, en général. Hein. Quand même. Hein. C'est pas...
Ça fait suite à déjà du temps qui s'est écoulé, voilà. Ou la situation...
Avec d'autres mesures. Souvent, hein, il y a d'autres mesures, voilà. Avant, qui sont censées être plus légères. Et quand il prend cette décision, c'est que c'est grave, souvent. Hein. Et bien là, c'est 2 ans, pas... pour mettre en place une AME. Donc pendant 2 ans, l'enfant il reste quasiment sans intervenant. J'exagère un peu, mais... donc ça, on peut appeler ça la souffrance institutionnelle. C'est-à-dire que vraiment la justice, elle ne peut pas faire autrement. Je ne pense pas que ça soit de la mauvaise volonté.
Ah non,
volonté,
mais c'est même pas là du côté de la justice que ça se joue. C'est puisque elle a la... Ah oui,
pardon, les associations, parce que la plupart, ouais, du temps, ces associations n'ont pas de place. Ils ont 160 mesures par éducateur. Bah, les référents ASE, c'est pareil, c'est 250 mesures qu'ils ont. 250 enfants.
Dans un EDS, oui, à peu près. Il y a à peu près,
ouais.
C'est variable, fonction du territoire.
C'est 3 fois trop.
Ils ont 30 mesures par référent. Donc, 30 mesures par référent, ça veut dire qu'on ne peut pas faire une présence même d'une heure par semaine auprès des familles, c'est pas possible.
Non, mais ils en ont beaucoup plus.
Non, dans le cas
des référents.
Oui, c'est ça le...
Ah oui.
Bon, en tout cas, peu importe, mais c'est, oui, dire que ça nécessiterait, en effet, ne serait-ce que pour des ados pour lesquels on a besoin de d'être présent, de venir au domicile, de les rencontrer régulièrement, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Parce qu'il y a tous les temps institutionnels par ailleurs, et aussi, ce qui rend les choses aussi assez ubuesques, à mon sens, pour les référents ASE, et là vraiment je sais pas, c'est vrai que ça confusionne encore plus les choses, parce que quel est le sens que ça prend pour eux, c'est tout le temps qu'ils doivent passer à justifier ce qu'ils font. En l'occurrence, faire des rapports, alors que être éducateur, ça veut pas dire être bon éducateur, ça veut pas dire savoir bien écrire un rapport. Je crois pas que ce soit forcément en lien. Hein. et donc, ils doivent ou faire des demandes, ou envoyer des demandes de prise en charge, ou demander des, faire remonter à sa hiérarchie tout ce qu'il est en train de faire, justifier pourquoi il propose plutôt ça que ça, pour soi-disant faire des économies. Mais c'est tellement chronophage, je vois pas en quoi c'est économique.
Plus de temps, mais c'est de joindre tout ce dont je parlais tout à l'heure.
Voilà.
Tous les mails.
Donc ça, je sais pas comment démêler ce truc-là. Hein. Je relisais là, aujourd'hui ce que prévoyait la loi de 2016. Elle prévoit une harmonisation des pratiques. Faire en sorte que... puisque la difficulté aussi de ce problème, c'est ça, on va peut-être plus parler de ça en préambule, mais la difficulté du dispositif de protection de l'enfance, c'est que c'est sous la responsabilité de plusieurs ministères, qu'il n'y a pas un ministère dédié à ça, et que c'est décentralisé sur les départements. Et que le chef de file de la protection de l'enfance, c'est le président du conseil départemental. Donc, ils ont des obligations de mission, mais ils n'ont pas d'obligation de moyens.
De moyens.
C'est-à-dire que chacun est libre de mettre les moyens qu'il veut. Du moment qu'ils accueillent.
Du coup, il y a une disparité. Si on prend le 94, qui est le 93, qui est le mieux doté, je pense, en termes de protection de l'enfance, non sans raison, hein, probablement. Hein. Mais on prend le 92, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 92, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils en ont fait. Petit à petit, ils ont mutualisé en quelques années tout ce qui était un système qui était assez ample, qui ressemblait à celui du 94, et qui est devenu un système d'assistante sociale lambda, comme dans une mairie, qui traite en même temps ce qui se passe à la mairie et la protection de l'enfance. Ce qui se passe dans la population générale et la protection de l'enfance. Donc la disparité, là, si on prend 93-92, là, ils travaillent pas pareil, ils n'ont pas le même nombre de personnel, rien n'est harmonisé, alors là, ça n'existe pas, ça.
Mais,
ils n'ont pas les mêmes pratiques.
Mais même au sein d'une même institution, ce n'est pas harmonisé. Si on prend par exemple la question de la justice, la loi de 2016, elle prévoit ça. Elle prévoit qu'il y ait enfin une passerelle entre le JE, le juge des enfants, et le JAF, le juge aux affaires familiales. Parce que jusqu'alors, les deux pouvaient être concernés par la même famille sans jamais se parler. Et ça, c'est quand même un truc comment se fait-il qu'il faut attendre 2016 pour se dire, tiens, là, il y a quelque chose qu'il faut peut-être revoir. Donc, voilà. Bien sûr que... il faut accompagner les familles, travailler avec les parents, et c'est très important. Mais parfois, le travail avec les parents, c'est pas de remettre du lien, de réinjecter du temps de présence, parce que du temps de présence, c'est pas parce qu'on se voit plus que ça va mieux marcher. C'est pas ça qui fait que ça va mieux marcher, et que ça va mieux fonctionner, et qu'on va être moins... qu'il y aura moins de conflits, moins d'agressivité, moins de pathologies entre parents et enfants. C'est pas ça qui va... l'écueil, c'est d'imaginer qu'il faut renforcer les hébergements, mettre plus de visites médiatisées, etc. Non, c'est pas parce qu'on se voit plus qu'on s'aime plus, ou qu'on fonctionne mieux ensemble. Oui.
C'est une question d'amour. Les moyens ne sont pas mis en place pour que ces rencontres aient lieu. Le JE dit que ça doit avoir lieu. Les associations sont le bras armé du JE. Ils doivent les mettre en place. Dès qu'ils disent non, c'est pas possible en fait de mettre en place ça, ils ont une pression de toutes parts. Hein, c'est-à-dire l'ASE, le juge, va leur mettre la pression pour que la visite ait lieu quand même. Alors qu'ils ont constaté, et qu'ils sont censés être là pour ça, C'est-à-dire que c'est les professionnels, les psychologues, par exemple, qui reçoivent, qui, par exemple, vont dire « Non, mais là, ces visites-là, elles sont juste terrorisantes. Mmh. » Ben, la plupart du temps, on va dire « On va juste baisser un peu le rythme, mais encore, on va juste dire « Non, non, ça doit avoir lieu. » C'est la loi. C'est le droit du parent. Alors, à quoi ça sert de mettre des professionnels? Il y a juste à les faire, médiatiser, il n'y a pas de... Pourquoi on rend un rapport, qui sont très rarement suivis? En un an et demi, moi j'ai vu un ou deux rapports qui étaient suivis par le juge. Tout le reste, ou c'est statu quo, alors qu'on apporte des arguments, qu'on dit ce qui se passe en visite médiatisée, etc. Ou alors ils baissent un petit peu les visites, voilà. Autre chose qui est intéressante, c'est que par exemple, si on voit la différence de traitement, c'est là on est en train de parler des mineurs, des enfants principalement. Dans les violences conjugales, est mis en place par exemple des injonctions de soins pour les auteurs. Ça n'existe pas pour les parents. Les parents maltraitants n'ont jamais d'injonction de soins. Ça n'existe pas légalement. On ne sait pas pourquoi. Ça existe pour les alcooliques, ça existe pour les auteurs de violences sur femmes adultes. Sur les enfants, ça n'existe pas. Il n'y a pas, d'ailleurs, en ce moment, avec tout ce qui se passe autour des violences en général, les violences faites sur enfants ne sont pas au centre du tout. C'est les violences sur femmes adultes qui sont au centre du débat. Ce qui est complètement injuste. Parce que les violences sur enfants devraient être au centre du débat, parce que c'est celles-là qui deviennent des violences sur femmes adultes après. Bon. Mais après, pour moi, c'est on prend les choses au mauvais endroit. Enfin, il faut le faire aussi, c'est ce que je suis en train de dire. Mais il faudrait faire plus de prévention, voilà. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Et c'est intéressant de voir comment les parents ne sont jamais condamnés, n'ont jamais d'injonction de soins. Par exemple, aucune visite médiatisée, je n'ai jamais vu aucune visite médiatisée, indexer un suivi psychiatrique, par exemple. Vous verrez votre enfant si vous allez régulièrement au CMP. On pourrait imaginer ça, par exemple. Des choses comme ça. Ça n'est jamais été le cas. Il n'y a jamais de parents qui sont obligés à quoi que ce soit pour voir leurs enfants. C'est assez étonnant. Il n'y a pas de dispositif. C'est le GE qui va dire comme ça. Il n'y a pas de dispositif légal. Là-dessus, comme on le retrouve dans les violences conjugales, ou l'ancienne injonction thérapeutique pour les alcooliques, là, qui est devenue pour les auteurs de violences sexuelles, par exemple, aussi, qui existe. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, toi, tu dis que tu as une
hypothèse. Oui, mon hypothèse, c'est quand même que, est absent aussi de la loi et de toutes les lois qui sont succédées sur la protection de l'enfance, parce que là, on parle de la loi de 2016, mais la loi de 2007 et celle de 2002 avant, c'était la même chose, sont complètement évacuées la question de la pathologie parentale. C'est-à-dire que ça n'apparaît pas. On fait comme si les parents étaient des gens ignorants qu'il fallait éduquer à la parentalité et qu'il suffisait finalement de leur donner des références de bon traitement de l'enfant et que tout allait bien se passer. C'est prévu comme ça, la loi. Vraiment, quand on la lit, on entend ça. C'est que l'éducatif va suffire à faire en sorte que les relations se passent mieux et que tout ça soit harmonieux. Sauf que ce qu'on traite continuellement dans la protection de l'enfance, c'est quand même le déni des générations, l'écrasement des générations, c'est-à-dire que s'il y a de l'inceste, c'est bien parce qu'on considère que c'est possible d'avoir des relations sexuelles avec un enfant, etc. etc. Bon, donc on est dans l'écrasement des générations, et c'est quand même un déficit de la loi interne, la loi symbolique, totale. Et ça, personne n'en fait mention. Enfin, alors qu'on ne traite que ça. Et que, très régulièrement, l'évaluation psychologique, moi par exemple, pour parler de mon expérience, au sein des équipes en France, donc des équipes ASE sur les territoires, puisque j'ai fait plusieurs territoires, on fait l'évaluation de la situation, une évaluation éducative ou sociale, et ou les deux, et on appelle le psychologue quand vraiment on se dit « tiens, là, on ne comprend pas trop ce qui se passe ». Alors que la problématique psychique fait que c'est ça qui entraîne le comportement. Je ne pense pas que c'est le comportement qui entraîne la psychologie des parents. C'est bien parce qu'il y a une problématique familiale, psychique, une pathologie familiale individuelle. Oui, mais non, mais voilà, il y a quelque chose qui se joue là d'un point de vue psychique, qui entraîne un comportement déconnant du parent. On parle pas, alors voilà, ça aussi c'est une nuance, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, on parle pas des violences éducatives, qui à mon sens n'existent pas. Là, je rejoins complètement Dolto là-dessus. Les violences éducatives, ça n'existe pas, il s'agit d'autre chose.
C'est des violences.
Ce sont des violences, ce ne sont pas des violences éducatives. C'est-à-dire, soit on est dans un comportement chronique de maltraitance, soit on est dans un débordement. C'est-à-dire que l'épuisement parental, ça existe et on ne parle pas de ça, là.
Non.
On ne parle absolument pas de ça. On ne parle pas de la baffe, on ne parle pas de la fessée et du cri, du hurlement parce qu'on est excédé, parce que l'enfant, ça fait mille fois qu'il nous refait le même truc et que tous les parents connaissent ça. On ne parle pas de ça, là, hein, du
tout. C'est vraiment une des confusions qu'il fallait aborder, ouais. La confusion entre la maltraitance et le débordement... dû à la difficulté qu'est la parentalité pour un individu parent. Mais, et ça, c'est, oui, c'est vrai que la confusion peut être faite dans une émission de radio, justement, récemment, chez Étienne Klein,
non.
Chez Adèle Vendrette, le nouveau chemin de la connaissance, là. Il y avait un mec qui est intervenu, un pédopsychiatre, je pense, pour dire que dès une fessée, rien qu'une baffe, même une seule, c'était un traumatisme pour l'enfant.
Il y avait un continuum.
Confusion, il y avait un continuum entre je te pousse sur ton lit, je te mets une baffe une fois sur 15 ans, et la maltraitance, la pire. Comme ça, dans des confusions totales qui peuvent pas aider, je pense, les professionnels.
Et qui aident pas du tout les parents aussi, non ?
Ni les parents à se dire, à pas culpabiliser. Là.
Voilà.
Quand on parle de maltraitance, du coup, peut-être qu'il faut préciser ce qui existe.
Alors là, c'est moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que je trouve qu'il y a une créativité. C'est terrible de dire ça, mais vraiment, quand on voit parfois les sévices qu'on est capable de faire vivre à un enfant, on se dit faut avoir l'idée quand même. Enfin. Bien sûr qu'il y a des fixations érotico, je sais pas quoi, qui sont sous-jacentes. Enfin, il y a des fantasmes derrière, bien évidemment, mais quand même, des fois, on se dit, mais moi, j'ai vu des trucs.
Si on revient vraiment, il y a plusieurs choses à la protection de l'enfance. Il y a la maltraitance active déjà. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais. C'est-à-dire les violences physiques, les violences sexuelles. Psychologique, c'est complètement con de dire ça, c'est... Bon, je sais pas comment le dire. C'est pas des violences... Des violences, peut-être, la violence symbolique, ça fait Michel Foucault, donc. Ça fait Foucault, ça va pas. Psychologique, on va dire. Il y a des violences psychologiques, c'est quand même actif. Et puis, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il faut pas oublier, peut-être ça c'est moins connu, il y a tout simplement ce qu'on appelle la négligence, ou négligence due à une pathologie psychiatrique, par exemple.
Voilà.
Il y a des parents, par exemple, on prend un parent mélancolique, au sens psychiatrique, du terme. Il ne va pas être absolument actif dans cette négligence ou cette maltraitance. Mais l'enfant ne peut pas rester là, pour autant. Si on prend une mère mélancolique qui est persuadée qu'elle est déjà morte ou qu'elle est un déchet, comment l'enfant va s'identifier à autre chose qu'un mort ou un déchet ? C'est toute la question de l'identification qui se pose dans la maltraitance. C'est ça la question principale. C'est comment faire en sorte que sans oublier son histoire, sans oublier qu'ils sont ses vrais parents, qui sont tellement importants, parce qu'ils sont sans... Ça aussi, une des représentations, c'est que le parent est a priori bon. J'ai jamais vu des parents qui étaient a priori bons. Faudrait voir ça, mais c'est... L'idée, là, c'est vraiment que même dans des situations où la maltraitance n'est pas active, il faut séparer l'enfant du parent parce qu'il est schizophrène et que tout ce qu'il dit est fou. Et que après, dans le social, si tout le monde était schizophrène, ça ne poserait pas de problème. Dans le social, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment la porte ouverte à se prendre des murs en permanence socialement. D'avoir à faire qu'un discours schizophrène ou un discours mélancolique où tu vas t'identifier sans arrêt à du rien, à de la merde, à du déchet, à de la souffrance. C'est, donc il n'y a pas que les maltraitances actives, il faut le rappeler. Hein. Dans les maltraitances qu'on pourrait appeler par procuration, il y a aussi les mères qui laissent faire l'inceste. Ça, c'est des choses dont on parle très peu. Pour moi, c'est vraiment c'est l'inceste maternel, souvent, prend cette forme, par procuration. Peu de gens en parlent comme ça, mais pour moi, c'est une évidence. Dans énormément de situations, c'est des mères qui n'ont pas l'air folles, mais qui le sont sur ce point-là, sur la question de l'inceste, et qui laissent faire l'inceste par, le père, par leur propre père, par leur mari, qu'il soit ou pas le père de l'enfant, d'ailleurs. C'est pas toujours le cas de l'enfant. Ça, c'est des maltraitances inactives, mais qui sont... il suffit de regarder Crime d'inceste, le petit documentaire d'Arte, je sais pas si tu le connais, que disent la plupart des jeunes filles, et c'est pas que des jeunes filles, donc c'est complètement con ce que je dis, les personnes qui sont abusées, c'est, ils en veulent souvent plus à celle qui n'est pas intervenue qu'à l'auteur. C'est probablement quelque chose, c'est probablement aussi une coquetterie quand elle dit ça. Mais pas seulement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où elles essayent peut-être de sauver l'auteur en disant ça. C'est rien ce qui se passe au niveau psy, à ce niveau-là. Mais quand même, elles reviennent souvent là-dessus. Je ne sais pas si tu te rappelles du documentaire. Notamment les deux jeunes filles, là, elles viennent, mais comment elle a pu laisser faire ça? L'ayant vécu elle-même, si je me souviens bien.
C'est logique. Oui, il y a un don comme ça. Il y en a une voilà. Pour laquelle il y a un don au grand-père. Voilà.
Et donc ça fait partie des maltraitances inactives dont on parle très peu, mais qui sont très très graves. Hein, laisser faire. Laisser faire, c'est pareil. Que faire? Dans la loi d'ailleurs, il me semble. Hein.
Non.
C'est pas pareil en termes de condamnation, mais c'est pareil. L'adulte doit intervenir quand même mineur et en danger.
Voilà, parce qu'il y a quand même cette question de la vulnérabilité, de quoi on parle. Voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure au sujet de cette différence de traitement entre des femmes adultes et des enfants mineurs. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi on ne protège pas mieux les enfants mineurs et que. Bien sûr qu'il faut protéger tout le monde, mais les femmes sont
adultes. Pourquoi c'est pas au cœur du débat?
Pourquoi c'est
ça
pas
que
au cœur
je du... disais, voilà.
Alors que le degré de vulnérabilité des enfants
est plus
important que celui des femmes adultes. Mais,
après, il y a toutes les maltraitances, j'ai parlé de celle-là parce qu'elle est moins connue, mais il y a toutes les maltraitances actives qui vont du bébé secoué, tout simplement, qui affecte des hématomes parfois, quand on dit que c'est pas rattrapable. Là, voilà un très bon exemple qu'on peut vérifier avec l'imagerie en plus. Donc c'est pas rattrapable. Il y a des hématomes qui font qu'il y a des enfants qui ont des pathologies neurologiques dues à des hématomes sudurales à vie. Donc là, on parle pas d'un truc qu'on va réparer. Hein. Ça ne se répare pas. Il y a plein d'affaires, il suffit de regarder, faites entrer l'accusé. Hein. Notamment, je conseille le petit Lubin. L'histoire du petit Lubin fait entrer l'accusé avec ses deux parents qui ne se croisent pas, dont on ne sait pas qui a secoué l'enfant. C'est passionnant pour cette histoire de protection de l'enfance parce qu'on s'aperçoit que le couple, c'est extrêmement important aussi dans cette histoire-là.
Bien sûr, la
question du tien. Et alors là, si on prend le bébé secoué, les violences physiques en tout genre, alors là, c'est le Marquis de Sade, quoi. On est dans le catalogue des horreurs. Je sais pas ce qu'on a vu.
Tout, les piments, les mains brûlées.
Il faut le dire.
Les scalpes.
Scarifiés, tapés avec toutes sortes d'objets. Ben, c'est hallucinant quand tu regardes les dossiers.
Alors, vu que Nunzio et Isabelle ont encore beaucoup de choses à nous partager et que le fichier audio me paraissait un petit peu long, j'ai décidé de couper l'épisode en deux. C'est pas l'idéal, je vous l'accorde, mais bonne nouvelle, l'épisode est déjà publié. Vous avez juste à basculer sur la partie 2 où vous allez en apprendre un peu plus sur le travail du psy, dans les structures de protection de l'enfance, la reconstruction des enfants, etc. Donc voilà, à de suite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.